France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les députés britanniques se saisissent exceptionnellement aujourd'hui de l'agenda de la Chambre des communes pour voter sur une série d'alternatives à l'accord de Brexit négocié par la Première ministre Theresa May, une prise de contrôle qui pourrait profondément redéfinir le processus du divorce.
Et de son côté, Theresa May pourrait, en échange du ralliement d'un nombre suffisant d'élus conservateurs à son accord de Brexit, s'engager à quitter ses fonctions à la tête du gouvernement.
En Algérie, après que le chef d'état-major de l'armée a proposé hier que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir, la balle est désormais dans le camp du Conseil constitutionnel à qui il revient de lancer ou non la procédure, voire dans le camp du chef de l'État s'il choisissait lui-même de démissionner.
En France et dans votre journal également, Thomas Cluzel, le gouvernement présente depuis ce matin en Conseil des ministres son projet de réforme de la fonction publique.
Oui, un projet dont les syndicats redoutent qu'il ne tende à aligner le statut des fonctionnaires sur celui des salariés du secteur privé. Différentes organisations appellent d'ailleurs à des rassemblements aujourd'hui partout en France pour dénoncer la réforme. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Nous nous intéresserons aujourd'hui au travail, lui aussi toujours en projet, en réforme aujourd'hui, avec notre invité, le juriste Alain Supiot. Il a co-dirigé un ouvrage intitulé « Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?» C'est donc la question que nous lui poserons. Le travail est-il encore humain et surtout est-il encore un droit ?
Merci et à tout à l'heure. Au Royaume-Uni, on ne compte plus les journées décisives, conduisant généralement à davantage encore d'incertitudes. Quoi qu'il en soit, et après avoir voté une motion leur permettant de prendre le contrôle de l'agenda parlementaire, les députés britanniques devraient indiquer aujourd'hui au gouvernement leur préférence pour la suite du processus du Brexit. Mais d'ores et déjà, il semble peu probable que l'une des options proposées sera susceptible de débloquer la situation, comprenez de dégager une majorité. Sans compter que le gouvernement, lui, ne sera même pas tenu de respecter le résultat de ce vote indicatif. Et puis, ultime rebondissement encore possible dans cette incroyable saga, Theresa May a donné rendez-vous en fin de journée à plusieurs députés pour leur dire quoi ? Mystère. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Londres où depuis hier, la machine à rumeurs parle d'une possible démission de la Première ministre.
Oui, jamais les caricatures de Theresa May, poche sous les yeux et très tirée, n'ont été aussi proches de la réalité. Voilà des semaines que la Première ministre court après une majorité introuvable. Par deux fois, son texte a été massivement rejeté, faute de soutien suffisant dans son camp. Des conservateurs extrêmement divisés, Brexiteurs d'un côté, Remainers de l'autre. Seul point commun, ils ne veulent plus de Theresa May. C'est donc sa démission qui serait dans la balance, départ du 10 Downing Street contre adoption de son texte. Le deal sera discuté tout à l'heure avec les députés Tories et la Première ministre pourrait dans la foulée annoncer sa date de sortie. Toutefois, la partie est loin, très loin d'être gagnée. Les unionistes nord-irlandais du DUP dont a besoin Theresa May ne veulent toujours pas de cet accord toxique et la discipline de vote a de toute façon volé en éclats à la Chambre des communes où le chaos ambiant complique grandement les pronostics.
Alors, en admettant que Theresa May obtienne de la part des députés conservateurs, en échange donc de sa démission, la garantie qu'ils voteront bien son accord négocié avec Bruxelles. Ce vote pourrait avoir lieu dès demain, mais d'ici là, Louis, ce sont bien tous les parlementaires réunis à Westminster qui gardent la main.
Et oui, pour sortir de l'impasse, les élus ouvrent la boîte à idées sous forme de vote indicatif. Plusieurs scénarios discutés puis votés dans la soirée, du no deal à l'abandon pur et simple du Brexit, en passant par un accord de libre-échange, une union douanière ou alors le maintien dans le marché unique, sans oublier l'hypothèse d'un second référendum. Alors peu de chance, vous le disiez, qu'une majorité se dégage dès ce soir. Un nouveau vote est prévu lundi. Et si par extraordinaire un consensus était trouvé, rien n'obligera Theresa May à le valider. Idée. Nouveau bras de fer en vue donc et nouveau blocage donc sans doute nouvelles élections. Scénario qui là encore mène au départ rapide de Theresa May.
Merci Louise Baudet en direct de Londres. Alors on rappellera que pour l'heure l'Union Européenne a laissé le choix à Theresa May. Soit l'accord négocié avec Bruxelles est voté par les députés britanniques, auquel cas le report du Brexit pourra aller jusqu'au 22 mai. Soit cet accord est rejeté, ce qui signifie que pour éviter un no deal, Londres n'aurait plus que jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative et demander un nouveau report qui impliquerait notamment la tenue d'élections européennes. Or, dans la perspective justement où la date du Brexit serait repoussée de plusieurs semaines, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a appelé ce matin les eurodéputés à, je cite, « ne pas trahir les Britanniques qui souhaitent rester dans l'UE », plaidant ainsi pour la participation du Royaume-Uni aux élections du 26 mai. Les précisions à Strasbourg de Johanna Hochstein.
Donald Tusk a tenu à justifier les propos qu'il a tenus avant le sommet européen de la semaine dernière. Le président du Conseil européen a insisté pour donner du temps aux Britanniques.
Nous devrions être ouverts à une longue prolongation si le Royaume-Uni souhaite repenser sa stratégie sur le Brexit, ce qui signifie bien sûr la participation du Royaume-Uni aux élections. On a entendu des voix dire que ce serait dommageable ou gênant pour certains d'entre vous. Permettez-moi d'être clair, une telle pensée est inacceptable. Vous ne pouvez pas trahir les 6 millions de personnes qui ont signé la pétition de révocation de l'article 50, le million de personnes qui a défilé pour un vote populaire ou la majorité croissante des gens qui veulent rester dans l'Union européenne.
Une position qui peut en étonner plus d'un, mais Donald Tusk ne s'en cache pas. Il est l'un des dirigeants à regretter le plus le choix des Britanniques. Des Britanniques et surtout des Brexiteurs qui ont saisi la balle au vol pendant le débat ce matin. Nigel Farage le premier, l'eurodéputé qui a mené la campagne du Brexit, a tenu à rappeler quelques chiffres.
Si vous pensez que les Britanniques ont changé d'avis sur le Brexit, messieurs, je peux vous le dire, vous vous trompez. Parce que ce que l'on voit, d'après nos sondages, 15 à 20% de personnes en plus seraient prêtes à quitter l'Union européenne. Si nous avions un deuxième référendum, le Leave l'emporterait avec une plus grande marge.
Et certains ont insisté pour dire ce matin, comme Guy Verhofstadt, le monsieur Brexit du Parlement européen, que les Britanniques finiraient par revenir au sein de la famille européenne. Pas maintenant, a-t-il précisé, mais dans une quarantaine d'années.
Réunis en plénière donc à Strasbourg, les eurodéputés se sont également prononcés hier en faveur d'une suppression du changement d'heure saisonnier dans l'Union européenne. Cette mesure devrait prendre effet à compter de 2021, soit 2 ans plus tard que ce que la Commission européenne avait souhaité. D'ici là, les pays devront décider s'ils veulent opter pour une heure d'été ou d'hiver permanente, avec le risque donc que des divergences existent entre voisins et empêchent une véritable harmonisation européenne. Enfin, toujours s'agissant de l'UE, le Parlement a définitivement approuvé hier le projet de directive sur le droit d'auteur à l'ère numérique, censé permettre aux éditeurs, aux médias et aux artistes d'obtenir une rémunération auprès des plateformes internet pour la mise en ligne de leur production. Les États membres ont désormais 2 ans pour transposer le texte dans leur droit national. Un saut dans le futur autant que dans l'inconnu, voire dans le vide. Hier, après plus d'un mois de manifestations pour réclamer le départ d'Abdelaziz Bouteflika, l'armée a donc fini par lâcher le chef de l'État au pouvoir depuis 1999. Ou plus exactement, le chef d'État-major Ahmed Gaïd Salah a demandé à ce que le président soit reconnu physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions et, conformément aux dispositions de la Constitution, qu'il soit ainsi procédé à son empêchement. Alors si ce geste marque tout d'abord une rupture entre le clan présidentiel d'un côté et l'armée de l'autre, il ne constitue pas pour autant une surprise en affirmant par 2 fois déjà que l'armée demeurait le rempart du peuple et de la nation. Le général Ahmed Gaïd Salah avait laissé entendre à demi-mot qu'une solution à la crise était possible pour répondre aux revendications légitimes du peuple algérien. Reste qu'il convient de s'interroger sur la véritable nature de cette déclaration. Doit-elle être entendue sinon comme une manière pour l'armée de s'emparer du pouvoir, à tout le moins une stratégie destinée à garder les mains sur le processus de la transition? Avant d'essayer de répondre à cette question avec notre invité, je vous propose d'écouter ce qu'en pense la rue Kaïna Nazir. Vous êtes notre envoyé spécial à Alger, où ceux que vous avez rencontrés ce matin restent extrêmement prudents sur la suite des événements.
Si hier soir on a entendu des klaxons dans les rues d'Alger, ce matin effectivement la joie laisse place à la vigilance, car oui, si une autre digue a cédé, pas n'importe laquelle, l'armée, la rue se méfie, comme Ali, agent de sécurité qui vient de finir sa nuit de travail.
Gaïd Salah, mais c'est l'un d'entre eux, il n'y a aucune confiance. Jusqu'ici, il n'avait pas bougé. Il a attendu que le peuple crie, s'emporte. Il fallait qu'il réagisse dès le début. Ça reste de toute façon un allié de Bouteflika. Nous, ce qu'on veut, c'est des hommes neufs, ceux que le peuple aura choisi. Eux, ils restent entre eux.
Eux, c'est-à-dire les hommes du système, car pour Ali, même si l'article 102 est appliqué, les hommes du clan, ceux d'Abdelaziz Bouteflika, seront encore au pouvoir et ils jurent que les Algériens ne l'accepteront pas. Alors même si l'appel de l'armée à la destitution est une avancée pour les manifestants, ils restent prudents, la victoire n'est pas acquise, les loups ne sont pas encore prêts à lâcher le peuple, ni à arrêter de s'abreuver de son sang, ajoute ce matin un chauffeur de taxi.
Kaïna Nazir, envoyé spécial à Alger. Pour continuer d'évoquer ce sujet, invité du journal aujourd'hui, Hasni Abidi, politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors formellement, la proposition hier du général Gaït Salal ne peut être considérée comme une destitution décidée par l'armée, puisque c'est au Conseil constitutionnel qu'il revient désormais d'activer ou non la procédure. Étant entendu que ce Conseil est aujourd'hui dirigé par un homme du premier cercle du président de la République, cette procédure a-t-elle, selon vous, une chance d'aboutir ?
Disons que c'est une solution par défaut, parce que l'armée algérienne était devant un choix difficile, soit une instance provisoire dont elle n'a aucune maîtrise, soit faire recourir ou faire appel à l'article 102, et du coup elle pourra vraiment être le décideur de cette transition encadrée, cette transition organisée. C'est vrai que M. Ben Salah lui-même est affaibli, lui-même fait partie du cercle très proche du président, mais on sait très bien que les institutions finalement algériennes sont affaiblies et elles ne peuvent pas résister à un appel de l'armée. Le départ de Bouteflika signifiait le changement aussi, un changement opportuniste de ces institutions en faveur du nouveau régime.
Alors, s'agissant de ces institutions, justement, ce matin, Ali Benflis, l'ancien chef du gouvernement, s'est montré plutôt réservé et sceptique après l'annonce de l'armée. Tout d'abord parce que, selon lui, le Conseil constitutionnel n'est pas légitime, pas plus d'ailleurs que le Parlement, mais aussi parce que si cette procédure allait à son terme, cela signifie qu'une transition se mettrait en place avec les institutions actuelles, c'est-à-dire dans la continuité du système actuel. Partagez-vous cet avis ?
C'est une grande question. La rue algérienne et même l'élite politique algérienne est vraiment divisée sur cette question, parce qu'on sait qu'une transition aboutie, une transition démocratique, elle ne se fera pas que entre démocrates. La transition a besoin aussi de certains hommes, ceux en tout cas qui ne sont pas détestés ou qui ne sont pas contestés par la population algérienne pour mener cette transition. Il se trouve que malheureusement le président Bouteflika, durant 20 ans, a affaibli, a éliminé toute alternative crédible politique en mesure justement de piloter ou de gérer une transition démocratique. On se trouve face à un vide et on le voit bien ce vide. Nous avons l'armée d'un côté et la rue de l'autre, c'est-à-dire plus d'institutions intermédiaires pour jouer cette médiation, cette transition. C'est pourquoi les déclarations de Benflis, à mon avis, sont un petit peu radicales dans la mesure où il fallait absolument trouver une solution avec cette institution militaire, pas avec le chef d'état-major, mais avec une institution partant de l'idée que c'est la seule institution organisée, disciplinée et qui peut faire quelque chose dans ce processus de transition, mais vous avez raison, avec des garanties.
Parmi les autres solutions possibles, plutôt que d'en passer par le fameux article 102 de la Constitution, Abdelaziz Bouteflika pourrait lui-même décider de démissionner, auquel cas la transition serait moins longue. Est-ce envisageable ?
C'est vrai qu'une démission de président, d'abord, elle a le mérite d'offrir au président une sortie honorable et pas humiliante, comme la destitution. Elle va écourter la durée de la transition, mais est-ce que les partis politiques, est-ce que les figures politiques sont prêtes pour entrer dans une compétition importante, celle des élections présidentielles? Et même la démission, la voie, elle doit absolument passer par l'article 102 et par le Conseil constitutionnel. Il faut rappeler que c'est le président du Conseil qui prendra le relais en cas de démission de président ou en cas d'empêchement. Donc dans les deux cas de figure, le Conseil constitutionnel est la seule loi possible pour gérer la vacance du pouvoir.
Parce qu'on ne peut pas totalement aujourd'hui écarter un scénario à l'égyptienne, l'armée cherche-t-elle à prendre le pouvoir ?
Difficile de répondre à cette question. L'armée, évidemment, elle est surtout dirigée par des hommes et on sait que le général-major Gaït Salah est d'un âge avancé. Il a pris cette décision pour consolider la cohésion de l'armée, qui est très importante. On sait qu'il y a certains militaires qui poussaient vers une décision importante pour mettre fin à ce blocage institutionnel et politique. Mais l'armée, elle n'a pas l'intention de faire encore de la politique. Les années noires et l'exposition de l'armée dans la gestion de cette phase, la décennie noire, a laissé des traces Et je ne pense pas que l'institution militaire ou l'armée d'une manière générale est prête à revivre cette situation. Le dernier élément, c'est que nous avons aujourd'hui une mobilisation générale. Nous avons une rue qui est désormais un autre décideur politique. Et je crois que la rue algérienne n'accepterait pas un retour de l'armée comme détentrice du pouvoir au détriment de la revendication.
Pour autant, à défaut de prendre donc le pouvoir, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en choisissant d'invoquer ainsi la Constitution, l'armée cherche à tout le moins à éviter la mise en place d'une transition dirigée par des personnalités indépendantes, ce qui reste en fait l'option réclamée aujourd'hui par une bonne partie des acteurs de la contestation?
Ah oui, hein, évidemment, l'article 102 va permettre à l'armée de peser sur cette transition. Mais on n'est pas encore sûr d'avoir une transition. On est plutôt face à une succession et pas une transition, alors que la rue algérienne voulait un changement radical de ce système. Mais l'armée, elle est consciente qu'un changement radical doit passer par plusieurs étapes. Il doit être graduel. Est-ce que l'armée algérienne est capable d'exercer tous les pouvoirs? C'est encore une fois difficile. Ce qui manque aujourd'hui, c'est ce relais politique de cette mobilisation impressionnante de la rue algérienne et une formulation de garantie pour justement que l'armée algérienne, son rôle, reste cantonné à un accompagnement plutôt du changement de la transition et pas en tant que retour dans les affaires politiques et économiques, parce qu'on sait que l'armée n'est pas du tout habilitée, n'est pas prête pour s'immiscer dans les affaires civiles. Mais évidemment, mettre fin à la présidence de Bouteflika, c'est tout de même une des revendications les plus importantes de la rue algérienne.
Merci Hasni Abidi d'avoir été en direct avec nous, politologue, donc je le rappelle, et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. De nouvelles roquettes ont été tirées la nuit dernière en direction de l'État hébreu, suscitant en retour des frappes en représailles de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, de quoi mettre en question une trêve fragile instaurée au lendemain d'un nouvel accès de violence, de quoi aussi placer le Premier ministre Benjamin Netanyahou face au choix délicat de la riposte à moins de deux semaines maintenant d'élections parlementaires. À l'issue incertaine, hier, le chef du gouvernement a ordonné le déploiement des renforts à la frontière. C'était le 22 février dernier, soit quelques jours avant le sommet à Hanoï entre le président américain Donald Trump et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Dans les locaux de l'ambassade nord-coréenne à Madrid, un commando d'une dizaine de personnes avait mené une spectaculaire attaque. Utilisant des armes à feu factices, mais aussi des machettes, des couteaux et des barres de fer, ils avaient pris en otage le personnel de l'ambassade en les ligotant avant de voler les ordinateurs. Et ce matin, la Corée libre, un mystérieux groupuscule, vient de revendiquer cette attaque. Son chef serait un citoyen mexicain d'origine coréenne, résidant aux États-Unis. Quant à l'organisation, elle se présente comme un gouvernement en exil de la Corée du Nord. Alors, qui sont exactement ses opposants en lutte ouverte contre le régime de Kim Jong-un? Les précisions à Séoul du correspondant de RFI pour France Culture, Frédéric Oujardias.
Le chef présumé du commando de Madrid, Adrien Hongchang, est un militant connu, pourfendeur fervent du régime de Kim Jong-un. Idéaliste et déterminé, il a fondé en 2004 une ONG qui aide des réfugiés nord-coréens à fuir leur pays. En 2006, il est même emprisonné alors qu'il assiste des transfuges en Chine. Adrien Hong semble avoir ensuite créé le groupuscule Free Chosun. L'attaque de l'ambassade nord-coréenne n'est pas sa première opération. En 2017, l'organisation exfiltre le neveu de Kim Jong-un après l'assassinat de son père à l'aéroport de Kuala Lumpur. Le groupe vend à présent des visas virtuels pour le jour où le régime nord-coréen tombera. Le 1er mars, il se proclamait même gouvernement en exil.
Nous déclarons aujourd'hui que Free Joseon se constitue gouvernement provisoire de la Corée du Nord. Nous construirons une future nation sur la base du respect des droits humains. Nous nous soulevons contre les criminels qui dirigent le pays et qui perpétuent depuis des décennies des crimes contre l'humanité.
Le raid sur l'ambassade peut être vu comme un message politique à l'intention du régime. Mais l'assaut aurait aussi pu permettre au groupuscule de voler des informations précieuses, comme les codes de cryptage qu'utilise Pyongyang pour communiquer avec ses diplomates. Selon les enquêteurs espagnols, le chef du groupe a offert des informations au FBI américain. Free Chosun a justifié son raid en qualifiant les ambassades nord-coréennes de tremplins servant à des cyberattaques, des vols et des assassinats. l'assassinat. Les 10 membres du commando se sont réfugiés aux États-Unis. La justice espagnole a demandé l'extradition de 2 d'entre eux.
Cela fait plusieurs années déjà que les États-Unis subissent une grave crise sanitaire impliquant des opioïdes, ces substances aux effets similaires à ceux de l'opium et contenues dans certains médicaments utilisés pour apaiser les douleurs. Le nombre total de décès dus à des overdoses d'opioïdes a aujourd'hui dépassé celui dû aux accidents de voiture. On parle de centaines de personnes par jour. Alors hier, première victoire judiciaire contre les fabricants d'opioïdes. La famille Sackler, propriétaire d'un des laboratoires accusé d'être en partie responsable de cette crise, a accepté de payer 270 millions de dollars pour mettre fin à une plainte de l'État de l'Oklahoma qui, comme tant d'autres, a vu exploser donc le nombre d'overdoses mortelles ces dernières années. C'est une victoire majeure contre les industriels accusés d'avoir favorisé la dépendance aux drogues qui ravagent le territoire américain. Et puis toujours aux États-Unis, journée cruciale pour Boeing. L'avionneur a invité plus de 200 pilotes, dirigeants et régulateurs pour une réunion d'information lors de laquelle il devra présenter des détails sur la mise à jour du logiciel de son appareil 737 MAX impliqué récemment dans 2 catastrophes. Et puis des représentants de l'Agence américaine de l'aviation civile vont pour leur part être auditionnés par une commission du Sénat américain. Le gouvernement a présenté ce matin au Conseil des ministres son projet de réforme de la fonction publique censé la rendre plus attractive et plus réactive face aux nouvelles attentes des citoyens. Un projet rejeté en revanche par les 9 syndicats de la fonction publique. Des rassemblements sont d'ailleurs prévus aujourd'hui près de l'Élysée et partout en France devant les préfectures. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qui provoque une telle opposition au texte ?
Mais d'abord sa philosophie générale. Si l'exécutif se défend régulièrement de vouloir casser le statut des fonctionnaires, les syndicats et associations de professionnels dénoncent, eux, un alignement sur les règles du secteur privé. Ils s'inquiètent des conséquences pour les salariés, mais aussi plus largement des implications sur le périmètre de la fonction publique et le rôle des services publics. Et cela d'autant plus que cette réforme doit participer à la baisse des dépenses publiques, promesse d'Emmanuel Macron, tout comme la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022, un objectif réaffirmé ce matin par le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt. Le projet de loi ne fait pas en tant que tel référence à ces suppressions de postes, mais de nouvelles dispositions les favorisent. Parmi les points de crispation, le recrutement de contractuels, par opposition à ceux qui ont passé les concours de la fonction publique. Ils sont déjà nombreux, près de 20% des effectifs. Mais pour plus d'agilité et de variété des profils, la réforme élargit ce recours au contrat. Les syndicats dénoncent une précarisation, mais surtout des conséquences sur les principes de neutralité et d'égalité du service public. Autre mesure, l'instauration des ruptures conventionnelles, la remise à plat des accords sur le temps de travail dans les collectivités, ce qui permettrait 35 000 suppressions de postes selon Gérald Darmanin, et surtout l'encouragement aux mobilités vers le privé. Les syndicats s'inquiètent tout particulièrement de l'introduction du détachement d'office en cas d'externalisation, pour le dire autrement, transférer au privé davantage de missions et les personnels pour le faire. Enfin, autre volet de la loi très critiqué, celui qui concerne le dialogue social. Il prévoit une fusion des instances de représentation du personnel sur le modèle de ce qu'ont fait les ordonnances travail dans le secteur privé. Le projet de loi devrait être adopté avant l'été et applicable au 1er janvier 2020.
Merci Catherine Pétillon. La loi réformant le système de santé français est censée remédier au désert médical. Elle a été adoptée hier à l'Assemblée, essentiellement par les députés du parti majoritaire. La réorganisation du système qui touche aussi bien les études de santé que la pratique médicale doit maintenant être examinée par le Sénat. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a qualifié ce matin de dérive inacceptable les violences qui ont visé des Roms désignés par des rumeurs sur les réseaux sociaux comme étant à l'origine d'enlèvements d'enfants. Dans la nuit de lundi à mardi, 20 personnes au total avaient été interpellées puis placées en garde à vue après plusieurs rixes à Clichy-sous-Bois et Bobigny, des violences prenant à partie donc des personnes de la communauté du voyage. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Alors ces violences font suite à la multiplication de messages alarmants évoquant des tentatives d'enlèvement d'enfants. Une rumeur, Laura, qui est loin en réalité d'être nouvelle.
Non, au contraire, c'est une rumeur qui revient régulièrement, mais à différents endroits. Une rumeur très persistante avec d'un côté la camionnette blanche et de l'autre les enfants kidnappés. Difficile de comprendre pourquoi cette rumeur refait surface à certains moments précis. Mais pour Aurore van de Winkel, docteur en information et communication spécialiste de la rumeur, certains faits d'actualité pourraient la favoriser.
Il est possible que la mort d'un des protagonistes de l'affaire Jourdain du nord de la France, où il y avait aussi dans ce fait réel une camionnette blanche et des jeunes filles qui avaient été enlevées, a pu remettre l'idée que les Roms, la camionnette blanche, les enlèvements d'enfants étaient liés. Peut-être aussi le fait qu'on parle beaucoup d'affaires de pédophilie en ce moment à la télévision, par exemple avec la diffusion du documentaire Living Neverland ou les affaires de pédophilie dans l'église. Donc ça peut être un petit fait comme ça qui va réactiver le scénario d'une légende urbaine.
Des légendes urbaines gonflées par les réseaux sociaux. Il suffit de taper « camionnette blanche » dans la barre de recherche de Facebook pour trouver des dizaines de messages alarmistes, tous très partagés, et qui ont eu donc cette fois des conséquences dramatiques. Aurore van de Winkel explique pourtant que la plupart des internautes qui relaient cette rumeur pensent bien faire.
Le fait de diffuser la rumeur est plutôt un acte de solidarité. On avertit de manière bienveillante ses proches pour qu'ils restent en sécurité.
Et les autorités ont le plus grand mal à stopper la rumeur et faire passer leur démenti. Après les violences contre des Roms lundi soir, 3 adultes sont jugés cet après-midi à Bobigny en comparution immédiate.
Merci Laura Dulieu. Direction à présent la cour d'assises spéciale de Paris pour les suites du procès en appel du frère du tueur djihadiste Mohamed Merah Abdelkader, débuté lundi. Ce matin avaient lieu les auditions de son grand frère, mais aussi de son fils et de son ex-femme. Compte rendu signé Florence Sturm.
Ses premiers mots sont pour les familles de victimes qu'il cite les unes après les autres. « Je suis désolé », commence Abdelghani Merah, silhouette mince, en jean et blouson de cuir noir, crâne dégarni, aucune ressemblance physique avec son frère assis à sa droite dans le box des accusés. « Je n'arrive pas à me retourner vers cette personne. C'est lui qui a envoyé Mohamed Merah à la mort. Il a beaucoup de chance d'être jugé par la France. Il ne nomme pas non plus ses parents, qu'il appelle ses géniteurs. La famille Merah, le seul amour qu'on a pu avoir, ce sont les gifles et les coups. Un tableau très différent de celui presque idyllique présenté hier par Abdelkader Merah, souligne la présidente. Qui doit-on croire ? Je sais qu'il ment et qu'il se ment à lui-même, répond le témoin. Lui dit que c'est vous qui lui avez enseigné la voie de la délinquance quand il était enfant. Abdelghani Merah secoue la tête. Non, ce n'est pas moi qui l'ai initié, j'ai peut-être juste cautionné, admet-il. Mais si c'est de ma faute qu'Abdelkader Merah est devenu ce qu'il est devenu, je voudrais lui dire qu'à cause de lui, Mohamed Merah est devenu un tueur d'enfants. J'ai essayé de l'aider, poursuit le témoin, mais personne ne pouvait l'arrêter. Une fois encore, il accuse Abdelkader Merah qui écoute, sans réaction, les bras croisés sur le rebord du box. Il l'a martyrisé, battu, détruit de l'intérieur. Son regard reste tourné vers la cour. À aucun moment, il n'a croisé celui de son frère.
On termine ce journal avec un mot rapide de météo. Ciel variable au nord, du soleil au sud. Quant aux températures, elles seront généralement comprises entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.